Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, je reçois interview numéro 2, Daniel Talamoni de Triptyque, bonjour.
Bonjour.
Donc on a parlé évidemment de votre ADN, de l'aide aux collectivités locales, de vos deux associés, Fleur et Bénédicte, non ?
Bérénice,
pardon, excusez-moi. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où effectivement les élus, surtout des villes moyennes, ont besoin d'aide, ont besoin de tricoter avec la population des projets qui soient de l'ordre du supportable, puisque une partie d'entre eux ont été élus pour ne pas construire, et on sait très bien que surtout en ville dense ou en agglomération, on ne peut pas ne pas construire. Donc comment tisser ce lien avec la population ? Vous êtes là pour les aider. Parlez-moi un peu des opérations en cours, sans évidemment dévoiler tout, mais une partie quand même de votre savoir-faire.
Alors, je pense pas que les élus veuillent pas construire, hein. Ils savent pas comment s'y prendre, ça c'est sûr. Ils connaissent très bien les problèmes que les Français rencontrent. Alors, je vous parlais peut-être de deux ou trois opérations. Alors, des opérations qui sont en ville moyenne, opérations de 450, 500 logements proches d'une gare. Opération menée par des opérateurs sous forme d'opérations privées avec une promesse de vente sur un grand terrain. Et puis là, des élus d'une petite ville qui se retrouvent seuls à l'opérateur. Donc le premier sujet, c'est un peu sur le mode aménagement, c'est de séquencer le travail. D'abord, commencer par travailler sur c'est quoi le bilan global de cette opération, c'est quoi les risques, le bilan prévisionnel.
Donc vous partez quand même d'une image, c'est-à-dire que les opérateurs sont venus avec un plan masse, des cubes, machins, voilà. Et ça veut dire quelque chose, donc ça veut dire
exactement.
De l'argent, et il faut décrypter
exactement.
Ça.
Exactement, ouais. Donc là on demande aux opérateurs, c'est quoi leur bilan, le bilan promotion et le bilan d'aménagement, c'est quoi leur programme. Et puis ensuite, on travaille avec les élus sur la base de d'abord le sol, ensuite la composition, ensuite le programme. Avec le même argent, avec le même programme, on peut avoir 10 manières d'organiser la ville. Avec 100 euros, on fait 10 manières à la fabrication d'un espace public. Donc cette question, c'est une question assez essentielle.
Mais alors le temps des élus et votre temps, puisque vous les accompagnez, n'est pas le même que ceux des opérateurs. Comment faites-vous ?
Alors l'opérateur, il est quand même sur un bouton on/off. Hein. Donc si par exemple il sent qu'il y a une vraie volonté de fabriquer, il est prêt. Il est tout à fait prêt à prendre le temps et à modifier.
Il négocie avec les banques.
il négociera avec les banques, il négociera avec son comité d'investissement, etc. Donc là, il s'agit de pouvoir identifier c'est quoi le sol, c'est quoi le plan d'aménagement, c'est quoi le bilan, c'est quoi le programme, et après comment on peut le manipuler en fonction des desiderata des élus. Quand on fabrique ce travail, au fur et à mesure qu'on séquence ce travail, en fait, les élus et les services deviennent de plus en plus intimes avec le projet. Un projet, en fait, c'est pas...
Donc ils se l'approprient.
Oui. Un projet, c'est pas un dessin. C'est d'abord les gens qui le portent. Mm-hmm. Un projet est d'abord incarné par les gens qui le portent, avant d'être un dessin. Dès que les gens commencent à porter le projet, qu'ils arrivent à avoir un vocabulaire commun autour de ce projet, là commence à se poser vraiment la question de la capacité de pouvoir aller échanger avec la population. On est encore au stade du conception du projet, donc on peut encore le bouger, le modifier. Ce qu'on peut pas modifier beaucoup, c'est ses équilibres économiques.
Oui, mais justement, les équilibres économiques, ce sont des villes moyennes où on va dire que le prix du mètre carré est de 3002, 3005, 3006 euros du mètre carré. On construit toujours à peu près, on va dire entre 1004 et 1007, hein, selon parking par parking. Bah, comment on fait pour la quadrature du cercle, trouver la solution, puisque du coup, ça fait peut-être une architecture un peu monolithique, puisque on peut peut-être pas aller trop loin.
Les exemples que je vous cite, en fait, sont des exemples qui sont plutôt à 5005. Dès que vous arrivez sur un projet qui est un projet d'ensemble, où vous devez constituer des espaces communs, des espaces publics, soit vous faites un plan d'aménagement qui est extrêmement
basique,
avec des implantations d'immeubles qui sont les plus plombées possibles au sens de la maîtrise d'œuvre. Vous avez très peu d'intimité du projet, très peu d'intérêt, très peu de tendresse dans les espaces publics, ou dans les façades, ou dans le second œuvre. Et donc ça veut dire que ces projets qui sont dans des endroits...
Ils vont mal vieillir déjà.
Ils vont mal vieillir, mais ça impose quelque part à pouvoir avoir un financement de la collectivité au sens large. C'est absolument fou qu'on peut fabriquer la même qualité quand on est, j'en sais rien moi, ici les Moulineaux, ou qu'on est au Mureaux. Et donc, il y a quand même une question de redistribution qui est extrêmement claire sur le fait qu'à un moment ou un autre, celui qui met la clé dans la serrure et qui va acheter à 3006, il peut pas tout payer, c'est impossible. Et d'ailleurs, si on prenait une image, on fait pas le Champ de Mars et la Tour Eiffel avec un pub. On fait le Champ de Mars avec des financements publics. Donc le choix de la ville, il s'effectue aussi à travers son financement. Et il y a un moment où l'utilisateur peut plus la payer.
D'accord. Alors comment les élus, surtout s'ils sont nouvellement élus, peuvent, on va dire, lever des impôts, comme on disait dans l'ancien temps, et répondre justement à ces questions de financement public. Et bon, voilà, ils vont chercher l'argent à droite à gauche, mais à un moment donné, la source se tarit.
Il y a un moment donné où le projet, il faut arbitrer, soit on le fait, soit on le fait pas. Il y a un moment donné où on peut avoir aussi une décision qui fasse que les conditions d'un projet dans une ville qui n'a pas
faut
un
renoncer.
Marché... faut renoncer.
D'accord. Alors, c'est compliqué quand on est élu de renoncer alors qu'on a entraîné avec soi les services, la population, et qu'on se retrouve au milieu du guet. Ça arrive souvent ? Ça vous est arrivé ?
Alors, ça m'est arrivé dans ma carrière à plusieurs reprises, oui. Là, en revanche, pour Triptyque, c'est pas le cas. Et comme on travaille sur les Yvelines et sur le Val-d'Oise, on a quand même un système, un écosystème avec des financements croisés. On a plein de possibilités de faire intervenir les PIF, on a plein de possibilités de faire intervenir le conseil départemental qui finance le développement, faire intervenir la région, de travailler sur les subventions qui sont subventions d'État. Et on arrive quand même à fabriquer des dossiers où 10 à 20% à peu près du financement des espaces publics et du foncier est pris en charge, en gros, hein, par des subventions croisées. Donc même sur un marché à 3006, 3008,
vous arrivez à vous en sortir.
On arrive à s'en sortir, par contre, au lieu de le faire en 3 ans, on le fait en 7 ans ou en 6 ans.
Donc ça veut dire qu'on étale sur l'équivalent de mandat,
ouais.
C'est 300, 400 logements. Comment ça se passe avec la population ? Est-ce que c'est vous aussi qui arrivez à faire passer les projets ?
Alors nous, on fait souvent plutôt des workshops avec les élus, et puis en ce qui concerne la concertation, on va les aider à fabriquer des cahiers des charges éventuellement pour pouvoir aller chercher des prestataires qui sont spécialisés, ou qui sont, là par exemple sur Poissy, on va travailler avec Grand Public sur un très gros projet. Là on est aux limites de nos compétences, par contre on peut aider les élus à concevoir à quel moment... Ils ont les éléments pour pouvoir concerter. À quel moment il s'agit plus d'avoir peur, ils sont capables de répondre à toutes les questions.
Alors, ils sont capables, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont considéré que ce projet, c'était le leur. Donc, vous leur avez donné les clés. Comment ça se passe avec les services ? Parce que les services, aujourd'hui, ils sont quand même aussi un petit peu sachants.
Alors, les services sont sachants et c'est beaucoup plus des Mozart que nous sur l'aspect réglementaire, hein. En ce qui concerne le PLU, les PLUI, etc., ils sont évidemment meilleurs que, largement meilleurs que Triptyque. Notre job, c'est de leur montrer qu'on est complémentaires à eux. C'est pas d'être compétitif ou challenger. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un binôme, parce qu'il est symbolique, entre le DGS qui maîtrise, qui essaye de maîtriser une administration, et le maire. Ce couple-là, il est fondamental. C'est ce couple-là qui fabrique la maîtrise d'ouvrage, en général avec un cabinet, et puis deux, trois personnes autour. Mmh. Il s'agit de fabriquer les deux, trois personnes, pas les fabriquer, travailler avec eux, pour voir comment on peut être complémentaires d'eux. En aucun cas les challenger. À chaque fois qu'on se retrouve dans une position où ils ont l'impression qu'on les challenge,
ça ne
fonctionne pas.
Alors comment se passe l'aménagement demain, puisque les grands opérateurs, qu'on ne va pas nommer, mais enfin on les connaît tous, sont en train de perdre un peu des parts de marché quelque part, puisqu'il n'y a plus de grandes emprises. Donc ça se passe comment ? Comment ça va demain pouvoir se tricoter différemment ?
C'est vraiment une question très compliquée à répondre. Les grands opérateurs qui sont très récurrents, ils arrivent à trouver beaucoup de fonciers, ils n'arrivent pas à développer leurs opérations parce que les freins sociologiques ou sociétaux sont très importants. Donc ils voient bien que leur modèle...
Mais ils doivent... Voilà, c'est ça, c'est le modèle qui doit être re-questionné.
Ils voient aussi que sur les zones qui sont extrêmement, extrêmement tendues et très denses, ils ont des difficultés à pouvoir développer parce qu'ils sont obligés de prendre beaucoup de temps et de mettre beaucoup d'argent sur la table. Donc ça leur pose un réel problème. Donc dans la pratique, ils sont à la recherche de structures de maîtrise d'ouvrage politique très courtes qui peuvent décider sur des marchés immobiliers existants qui sont desservis. Et donc c'est vraiment les villes moyennes qui vont, les villes moyennes en tout cas pour la région parisienne, qui ont en tout cas une chance de pouvoir redéfinir un axe de travail partenarial avec les opérateurs privés.
Et donc vous travaillez toujours dans les Yvelines et dans le...
Yvelines et Val-d'Oise.
Hein. Val-d'Oise, ouais, ouais. Vous avez décidé de vous restreindre, hein.
Alors il nous semble qu'il faut connaître un territoire précisément. L'évolution de sa population, l'évolution des bilans des villes, leur capacité à emprunter, leur potentiel fiscal, leur manière de piloter, leur gouvernance, etc., pour être capable d'avoir une chance de pouvoir les aider de manière un peu efficace.
D'accord, donc vous ne sortirez pas de ces départements-là, même si on vous pose la question? Il ne faut jamais dire jamais.
Il ne faut jamais dire jamais, mais si on veut vraiment faire un travail assertif, comme dirait, je ne sais pas qui, mais en tout cas, un travail complet, il faut être capable de connaître le territoire dans son intimité.
J'ai entendu beaucoup le mot intimité et tendresse dans votre langage en ce qui concernait l'aménagement, les espaces publics, etc. Est-ce à dire qu'on a tourné la page du brutal, on a tourné la page du je fais et j'impose mon savoir-faire, qu'aujourd'hui la population n'est plus capable d'entendre ça?
En tout cas, je pense que c'est pratiquement impossible pour les techniciens que nous sommes de pouvoir avoir... On peut avoir des convictions, mais des certitudes, il me semble que c'est strictement impossible dans l'état de la société actuelle. Et quand on se retrouve en concertation avec des populations qui sont très équipées intellectuellement, avoir la prétention de penser qu'on est capable de penser la ville de demain dans toutes ses dimensions, ça me semble extrêmement complexe.
Bon, donc le doute est créatif.
Pour moi, oui.
Bon, le doute, c'est parfait. Partagé. Je partage. Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur Radio Immo, évidemment.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.